Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'intelligence artificielle, un mot, une réalité qui fascine les uns et effraie les autres, alors que la Commission européenne annonçait mercredi dernier un projet visant à établir des normes dans l'usage des technologies d'intelligence artificielle. Une question hante l'homme contemporain, quelle place auront demain ces machines et plus encore, leur intelligence nous dépassera-t-elle? Prenons ces inquiétudes à rebrousse-poil, notre invité de ce matin s'est essayé, lui, un regard théologique sur les machines, non pas une approche de l'intelligence artificielle en termes de concurrence, voire de guerre larvée, mais un regard d'émerveillement et Dieu vit que la machine était belle et bonne, l'entendront presque nous dire, un pari audacieux, explication. Regard chrétien sur l'intelligence artificielle, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, Jean-Marc Moschetta, on en a parlé ce matin puisque c'est le livre que l'on fait gagner cette semaine. Ça tombe bien, votre ouvrage s'appelle, le titre complet, « Jésus viendra-t-il aussi sauver les machines ?» avec ce sous-titre que j'ai repris, « Regard chrétien sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies » paru aux éditions MAM. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu par nos studios. Alors voilà, vous êtes du pays, hein. Vous êtes donc docteur en sciences, docteur en théologie et prof à SupAéro, ça c'est bien de chez nous, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, et auteur donc de ce livre. C'est pas votre premier ouvrage, on vous a reçu à plusieurs reprises. Jean-Marc Moschetta, on se dit, quand on prend votre livre en main, comment ça vous est venu, tout simplement? Ça permet de vous présenter peut-être un petit peu plus. C'est un sujet quand même bien original. Comment ça vous est venu?
Ça m'est venu par, je dirais, deux côtés. D'abord, parce que nous sommes entourés de machines, nous sommes presque hybridés avec les machines, ce n'est plus à démontrer. Et puis, parce que le pape François, peut-être assez paradoxalement, dans Laudato Si, nous a rendu attentifs à beaucoup de détails du monde des vivants, des petites choses de la vie, etc. Et je me dis, finalement, on s'intéresse aux animaux, on s'intéresse à la nature, et que faire des objets de la technique, quel statut théologique leur conférer, quelle place peuvent-ils avoir dans le plan de salut de Dieu? Voilà, ça m'est venu à partir, je dirais, de l'attention que le pape François nous invite à porter sur ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure.
Alors, peut-être avant qu'on se plonge dans votre ouvrage, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, alors j'ai pas lu de sondage sur ce sujet, mais peut-être la plupart d'entre nous, on a un regard justement un peu inquiet à l'égard de l'intelligence artificielle. Vous, on a l'impression, c'est une grande exclamation, je le disais avec un peu d'humour dans l'introduction. Vous portez d'abord un regard émerveillé sur les machines ou pas ?
Émerveillé, alors bon, professionnellement, c'est vrai que je suis un petit peu, comment dire, dans le domaine de la technologie, dans le domaine donc des drones, de l'aérodynamique, de l'aéronautique, donc tout ça confère effectivement un regard, on perçoit des choses peut-être avec un certain émerveillement, c'est sûr. Je pense pas m'inscrire non plus dans la techno-béatitude, dans le sens dont on peut le dénoncer. Je pense que notre rapport aux machines est un rapport bien sûr ambivalent, que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois tiraillé par un retour à la nature, on va dire, un retour à la terre, à l'écart, justement à distance de la technologie, et d'un autre côté, une forme de familiarité que l'on n'est pas prêt à lâcher par rapport à, justement, à ces nouvelles technologies de la communication, etc. Donc on est dans cette tension. Mon émerveillement ou ma recherche se porte plutôt sur une forme de résolution ou de réconciliation. Et il me semble que la contemplation du monde dans son espérance de salut, dans son espérance cosmique ou inclusive de salut, nous permet justement de travailler à cette réconciliation.
Alors cet ouvrage, donc on va le parcourir ensemble, on va le parcourir à grandes enjambées, parce que évidemment il faudrait plus de temps qu'on en a pour rentrer dans toute sa profondeur, mais c'est un peu l'exercice. Je vais résumer à gros traits hein, peut-être le parcours que vous nous faites faire. Vous nous aidez à nous interroger sur la place de l'intelligence au cœur de la création. L'intelligence, pas seulement pour l'homme, mais pour le monde animal et donc aussi pour les machines, on va y venir. Essayer de voir aussi s'il y a une opposition, on va dire, de fait entre nature et technique ou pas. Et une interrogation sur la place des corps et au final sur la place de toutes ces réalités dans le plan du salut, voire même dans celui de la résurrection. Alors si on commence par le début, l'intelligence au cœur du projet de Dieu, c'est titre de votre premier chapitre. C'est peut-être un thème relativement connu. Hein. Vous faites un distinguo, vous dites que l'homme est créé à l'image de Dieu, mais non immédiatement à sa ressemblance. Et quel est le rapport avec l'intelligence ?
Alors effectivement, quand on lit attentivement les textes, les récits de la création, en particulier le premier chapitre de la Genèse, et on a tout d'abord pour l'homme un statut particulier, puisqu'il y a une forme de délibération. Il n'est pas dit que l'homme soit et l'homme fut, mais faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc c'est l'intention de Dieu est exprimée sous deux aspects, l'image et la ressemblance. Alors on pourrait dire que c'est un sémitisme, c'est-à-dire c'est une sorte de synonymie plus ou moins interchangeable. Et saint Basile de Césarée observe que dans l'effectuation de l'action, l'homme n'est plus créé qu'à l'image. Il dit ainsi, il est créé à l'homme à son image. Et on semble avoir oublié la ressemblance. Évidemment, cette petite distinction a été commentée dans la tradition en soulignant qu'il y a un programme, une image qui peut-être s'apparenter, peut-être prendre sa source dans justement la conscience morale, l'intelligence, la capacité de conceptualiser, etc. Et en cela, si on sous-entend que Dieu est lui-même un être éminemment intelligent, en cela, la création de l'homme fait écho par son image donc à l'intelligence de Dieu. Mais en même temps, il crée un écart en disant il y a une ressemblance. La ressemblance, c'est ce qui va nous rendre vraiment comme des dieux. C'est ce que dira un petit peu le deuxième récit de la Genèse. Il y a donc un écart entre la création et son créateur. Et ça, c'est pourquoi la ressemblance n'est pas dans l'effectuation, elle reste le programme. Voilà. Il s'agit d'être plus tard ressemblant vraiment à Dieu.
Alors on y reviendra. Quid des animaux et des machines, si on avance à grands pas? Vous rappelez entre-temps que Dieu est logos, hein, Dieu est un Dieu raisonnable et intelligent, contrairement à l'idée peut-être qu'on se fait parfois de lui. Quid des animaux et des machines? Alors, si on commence par les animaux, vous, c'est peut-être un petit peu quelque chose dans lequel vous vous promenez avec facilité, mais moi, j'ai découvert des choses absolument incroyables. À propos de l'intelligence des animaux, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand vous parlez d'Alex. Alex, c'est donc un perroquet. Perroquet qui a retenu beaucoup de mots, qui était capable de faire des phrases, mais qui a été jusqu'à poser une question à un homme.
C'est ça. Traditionnellement, il est connu comme étant un perroquet assez exceptionnel. Évidemment, les éthologues sélectionnent des animaux prodigieusement intelligents, c'est-à-dire des spécimens plus intéressants qui leur permettent d'aller sonder les capacités de l'espèce en question, voilà, à développer telle ou telle intelligence. Et effectivement, Alex, c'est intéressant parce que c'est réputé comme étant le perroquet l'être animal, l'être vivant en dehors de l'homme qui s'est posé la question de sa propre couleur, de quelle couleur, alors qu'il était capable de désigner les couleurs, et il a demandé quelle était sa propre couleur. C'est très intéressant comme question, parce que ça semble signifier d'abord une conscience, quelque part, de son être vis-à-vis du monde. Donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit là aussi une sorte de spécificité. Or cet exemple, parmi d'autres, nous montre au fond que l'intelligence n'est pas enfermée dans la définition humaine. C'est pourquoi le terme d'intelligence artificielle est un peu ambigu et un peu équivoque, parce que, au fond, l'intelligence, c'est un concept qui dépasse le concept d'homme. Le concept d'intelligence n'a pas besoin du concept d'homme. Ça la dépasse, même si l'humanité est évidemment le siège d'une intelligence qui est qualitativement quand même très supérieure à la plupart des animaux.
Alors, dans ces cas-là, quelle définition vous donnez de l'intelligence? Parce que parfois, entre intelligence, conscience de soi, On se demande un peu où vous vous situez, c'est-à-dire qu'on imagine de manière un peu classique que certes il y a une forme d'intelligence animale ou une intelligence des machines, vous rappelez par exemple des programmes comme Alpha Zero ou Scott Fish, j'ai découvert leur nom, hein, qui sont donc des programmes de jeux d'échecs, hein, bien supérieurs parfois à l'intelligence humaine. Intelligence, conscience, comment être au plus près de ce qu'il y a de juste?
Oui, alors la conscience, je dirais, la conscience n'est pas forcément intelligence. La conscience, c'est une boucle de rétroaction de la perception, c'est-à-dire que la perception, c'est ce qui permet à la plupart de beaucoup d'animaux de ressentir le monde qui les entoure. Et cette perception peut aussi s'exercer sur son propre individu, c'est-à-dire percevoir qu'on a telle blessure, percevoir, voilà, donc c'est une définition évidemment très rustique, très, très élémentaire, voire un peu réductrice évidemment de la conscience, mais c'est déjà un premier pas vers la conscience. La conscience humaine va beaucoup plus loin car elle permet d'appréhender, je dirais plutôt la structure métaphysique du monde, ce que évidemment les animaux auraient peut-être un petit peu du mal à faire, même si tel exemple que vous avez cité nous montre qu'il y a des prémices un petit peu de cette... ils sont un peu sur le seuil encore, mais enfin, il y a encore largement un écart. Donc je mettrais un peu, voilà, peut-être une distinction entre conscience et intelligence. Intelligence comporte aussi une notion de jugement et de calcul qui par certains côtés existe dans les machines, notamment l'intelligence calculatoire, et cette intelligence de jugement
On y reviendra peut-être justement si on s'arrête juste sur l'intelligence de calcul ou autre. Vous qui êtes familier de peut-être plus que nous du milieu des nouvelles technologies, à quoi ressemble cette intelligence artificielle aujourd'hui dans ses développements les plus extrêmes, comme on prenait l'exemple de ce perroquet pour le monde animal?
Elle ressemble, elle est en chemin. Alors l'intelligence artificielle aujourd'hui, ou plus exactement les systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui, se caractérisent, je dirais, par des phénomènes, on en parle surtout sous l'angle des phénomènes d'apprentissage renforcé, c'est-à-dire des réseaux neuronaux, donc des réseaux de calcul qui simulent en quelque sorte le fonctionnement neuronal dans le cerveau, qui ont besoin de beaucoup d'exemples. J'aime bien citer cet exemple de l'image je sais pas, par exemple, d'un animal exotique que on pourrait présenter dans une de nos écoles, par exemple un hippopotame, un enfant de 5 ans, en lui montrant quelques photos, deux ou trois photos d'hippopotame, et ensuite en lui montrant un dessin d'hippopotame, eh bien, je pense, aussitôt, l'enfant va dire « je reconnais là un hippopotame ». Aujourd'hui, aucune machine aujourd'hui est capable de faire ça. Il faut la gaver de millions de photos de chats ou d'hippopotames ou de girafes pour que le concept de chat, d'hippopotame ou de girafe puisse se former lentement à l'intérieur des réseaux neuronaux.
Il n'empêche qu'à un moment, elle trouve, la machine, ce que l'homme ne trouve pas. Je tombais là sur un article de La Dépêche à propos d'un rouleau de la Mer Morte, ces fameux manuscrits. Une intelligence artificielle aurait réussi à notifier ou à préciser, je ne sais pas si c'était totalement une découverte, mais en tout cas à assurer qu'il y aurait deux auteurs. En montrant une forme de récurrence de type d'écriture.
Voilà, parce que tout à fait, parce que face à la grande quantité de données, face à la grande complexité en termes de quantité de données, la machine est beaucoup plus efficace. Par contre, en prenant l'exemple, mon petit exemple là d'imagerie enfantine, ce que je voulais souligner, c'est que la profondeur de la pensée est encore à des machines, est encore à des lieux de celle des capacités humaines. Et c'est un mystère pour les chercheurs en intelligence artificielle de comprendre comment nous avons cette capacité d'apprentissage qu'on appelle non supervisée. C'est-à-dire on est capable d'élaborer des concepts, de comprendre un certain nombre de choses sans que personne nous dise ça c'est bon, ça c'est pas bon, pour qu'on puisse se forger petit à petit. Alors évidemment, il y a aussi des phénomènes d'apprentissage dans l'intelligence humaine, par l'éducation, par les études, par la lecture, par le travail personnel. Mais on a aussi une capacité, je dirais, qui est quand même encore très, très supérieure au système d'intelligence artificielle actuel.
Alors, ça veut dire que dans votre ouvrage, quand vous dites que la question, dans le fond, philosophique qui est sous-jacente à cette approche donc, de l'intelligence artificielle, c'est de se demander si, à un moment, il n'y a pas une conscience de la machine qui pourrait jaillir tout comme cette conscience aurait jailli dans l'histoire pour l'homme.
C'est effectivement une hypothèse qui est parfois rejetée rapidement en disant la machine, ce ne sera jamais qu'une grosse, voilà, une grosse machinerie pour calculer des choses qu'on a bien prévues, etc. Et bon, et il n'y aura jamais cette intelligence de finesse qui s'opposerait justement à cette intelligence un peu brutale du calcul. Je n'en suis pas si sûr. Je pense qu'il n'y a pas de... En tout cas, il n'y a pas d'éléments philosophiques, vraiment d'arguments dirimants, d'arguments vraiment qui s'imposeraient, pardon, qui s'imposeraient et qui excluraient de fait la possibilité pour une machine d'exercer ce qu'on appellerait une activité synthétique de pensée. Je ne vois pas d'argument. Après, c'est un parti pris qui en vaut un autre, mais je pense que ce que la nature a réussi à réaliser dans le travail laborieux, extrêmement coûteux de l'évolution des espèces, en faisant émerger l'intelligence humaine et la conscience, eh bien, je dirais, la complexité des machines le produira tôt ou tard. La question n'est pas de savoir si elle le produira, la question est de savoir quand. Et je pense que c'est ça la vraie question. Et il ne faut pas s'en effrayer. Pour autant, l'apparition de l'intelligence dans l'homme n'est pas nécessairement une chose effrayante. Au contraire, je pense qu'elle fait honneur au Créateur et à sa volonté que la création chante sa gloire.
Voilà pour l'introduction, peut-être déroutante pour certains auditeurs, tout comme le titre. Jésus viendra de votre ouvrage, Jésus viendra-t-il aussi sauver les machines, point d'interrogation, paru aux éditions MAM. On fait une pause musicale et on vous retrouve.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Regard chrétien sur l'intelligence artificielle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité Jean-Marc Moschetta, auteur donc d'un ouvrage que l'on parcourt, Jésus viendra-t-il aussi sauver les machines, point d'interrogation, avec ce sous-titre « Regard chrétien sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies » paru aux éditions MAM. Dans votre ouvrage, vous faites entre guillemets un léger détour pour probablement par pédagogie et puis pour votre raisonnement qui va nous servir, parce que tout le monde n'est pas forcément complètement familier de ce genre de réalité. Vous demandez en fait s'il faut opposer nature et technique, et ce en réinterrogeant ou en nous aidant à nous reprendre conscience du projet créateur de Dieu et de la place de l'homme dans ce projet créateur. On dit souvent donc que l'homme est gardien, aujourd'hui c'est la grande expression. Vous laissez entendre qu'en fait c'est pas suffisant, qu'il faut aller plus loin, il faut dire de lui qu'il est un cultivateur. Vous avez cette expression aussi, il faut non pas choisir comme qualificatif l'intendance créative, mais voilà que j'arrive pas à me relire, bref.
Oui. Non, mais clairement, effectivement, le pape le rappelle, hein, dans Laudato Si, c'est-à-dire que l'homme est. Il est confié à l'homme un projet qui consiste pas seulement à garder et à restituer l'endroit qu'il a habité en le laissant aussi propre que quand il est rentré, quand il l'a pris en entrant. Il est appelé à le cultiver. Le premier job, si j'ose dire, la première mission, la première vocation de l'homme, avant la chute, c'est un travail. Et ce travail, c'est le travail de jardinier. Et le jardinier, tout le monde le sait en ce moment, c'est pas un travail de tout repos. C'est pas un travail qui consiste à se promener dans le jardin et puis à vérifier que les bêtes sauvages ne viennent pas le saccager. C'est un travail qui consiste à, je dirais presque à humaniser ou à mettre à profit la beauté de ce jardin, qui d'ailleurs est un jardin, le jardin d'Éden est un jardin qui est composé d'arbustes d'agrément, beau à voir, et puis d'arbres fruitiers, qui est beau à manger. Donc c'est vraiment un jardin au sens le moins sauvage qui existe. Voilà. Et donc ce travail-là est un travail qui est interprété dans la tradition chrétienne comme un travail de co-création. C'est-à-dire que l'homme n'est pas là pour, encore une fois, pour restituer. Pensons à la parabole des talents. La parabole des talents nous dit exactement ça. Elle nous dit celui qui restitue le bien qui lui a été confié, eh bien, finalement, il n'est pas admis dans le royaume de Dieu. Celui qui est béni du Père, c'est celui qui a fait quelque chose et qui a donné ce qui n'était pas le dû.
Ce travail, donc, il y a, toujours, quelque part, l'intervention de la technique.
Absolument.
Je ne sais pas si c'est dans le chapitre, mais vous vous rappelez qu'en fait, quelque part, la première machine, c'est peut-être le premier outil qu'ont utilisé les premiers hommes.
Bien sûr. Il n'y a pas d'humanité plus, disons, antérieure à... Ça, c'est Bergson qui a souligné ça. Il n'y a pas d'humanité antérieure à Homo Faber, c'est-à-dire que, de tout temps. C'est-à-dire que ce qui fait l'homme, c'est sa capacité à utiliser des outils à la base, quoi. Donc c'est vraiment très, très caractéristique. Et ce qui explique sa morphologie, qui explique qu'il n'est ni très doué à la course, son odorat est très limité, il n'a pas de crocs, de sabots, de griffes qui lui permettent de se défendre dans la nature, etc. C'est parce qu'il est complètement voulu, enfin il a émergé par la technique et complètement. Donc notre histoire humaine est totalement modelée par l'histoire de nos technologies.
Donc c'est-à-dire que souvent quand on oppose nature et technique, il y a là quelque chose de...
Je crois qu'il y a là une illusion romantique qui consisterait à dire que certains décrivent le salut comme une espèce de retour à une sorte d'état de nudité originelle, de nudité animale qui ne correspond à rien du tout de ce que nous sommes. Nous sommes des animaux technologiques. Nous sommes des animaux technologiques où nous ne sommes pas des hommes. Voilà, nous sommes profondément technologiques. Ce qui fait que le salut lui-même impose de considérer ce qui est le singe en nous, c'est-à-dire qu'est-ce qui est la bête qui sommeille en nous et soumise et appelée à être sauvée, mais aussi la technologie en nous. C'est indispensable, cette dimension du salut, sinon le salut de l'homme n'aurait aucun sens.
Alors, vous reprenez une expression qui n'est pas de vous, d'un certain Gilbert Simondon, dans un ouvrage intitulé « Du monde, du mode d'existence des objets techniques », où il utilise cette expression de xénophobie primitive à l'égard de la technique. Ça m'a fait un petit peu sourire. En est-on, selon vous, donc jusqu'à être xénophobe de manière un peu basique ou caricaturale à l'égard du monde de la technique?
Oui, alors Simondon écrit cela dans un contexte des années 60, avec l'arrivée de beaucoup de machines, y compris jusque dans la cuisine, jusque dans la maison, partout, etc. Cette infiltration, je dirais, cette majeure des machines ne date pas de ce siècle, enfin, mais aussi du siècle précédent. Et Simondon s'interroge sur le statut de ces machines. Et il constate que nous raisonnons, nous considérons les machines comme nous considérons parfois l'étranger qui vient, prendre sa place à côté de nous, Et donc nous n'avons pas une attitude ni très empathique, ni très interrogative simplement. On va dire quel est cet étranger, qu'est-ce qu'il vient faire. Et les machines sont typiquement l'objet de cette espèce d'étrange mitoyenneté qui tient bien à distance les choses, en disant bon, les machines sont des machines, et puis terminé, il n'y a pas à discuter, et il n'y a pas à trop s'interroger sur leur place et sur leur statut. Et ce faisant, eh bien, on obtient effectivement un rapport qui peut être à la fois coûteux pour l'humanité et puis qui peut être aliénant aussi, tout simplement.
Si on avance, on y reviendra peut-être. Hein, j'aimerais donc qu'on parle du corps, c'est ce que vous faites. Donc, et à propos du corps, après nous avoir rappelé que c'est des choses qu'on peut lire par ailleurs, donc peut-être qu'on peut y passer, on peut passer plus rapidement, qu'on est dans une société où le corps a tendance à disparaître ou à avoir moins de place. La technologie vient interroger notre rapport au corps. Alors vous avez une expression, peut-être, enfin une image qui peut nous aider à rentrer dedans de manière facile. On serait passé de Batman à Iron Man.
Oui, alors si on veut, la question du corps, le corps aujourd'hui, les nouvelles technologies relationnelles, des réseaux sociaux, des smartphones, etc., le confinement lié à la crise sanitaire, etc., tous ces contextes convergent vers une forme de disjonction de la notion de corps entre d'une part le corps biologique, le corps qui est notre corps, le corps biologique, c'est le corps du médecin, enfin le corps observé, et le corps, et ce que j'appelle le corps existentiel, que la phénoménologie appelle le corps subjectif. C'est-à-dire le corps qui est le corps relationnel, le corps qui nous constitue à travers nos relations. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés avec ces nouvelles technologies à cette disjonction des deux notions de corps que la phénoménologie contemporaine avait relevé, mais que dans le livre je relis à l'angélologie, c'est-à-dire à la théologie des anges pré-scolastique.
On y reviendra après peut-être, je vous propose.
Et bien cette disjonction nous fait vivre la différence entre, jusqu'à présent si vous voulez, nos relations, c'était nos relations avec notre corps, et beaucoup se lamentent en disant c'est dommage, on peut plus avoir de relations. Mais bien sûr que vous pouvez avoir des relations, vous pouvez téléphoner, vous pouvez vous faire des petites vidéos pour vous pouvez être en relation, bien sûr ce n'est pas aussi satisfaisant que les relations avec votre corps, mais elles sont là. Donc c'est une alerte pour nous dire, finalement, il y a deux notions. Et ça, ce n'est pas les nouvelles technologies qui la créent, cette distinction. Elle est créée, et encore une fois, elle existe depuis longtemps dans la réflexion anthropologique, philosophique.
Donc, mais si on regarde la partie négative, vous nous expliquez aussi que derrière toute l'idéologie, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut la qualifier, transhumaniste, il y a ce distinguo net. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu la philosophie qui sous-tend
Alors, ce distinguo très net est poussé à son extrême, c'est-à-dire que dans certains discours, il faudrait mettre des S à transhumanisme parce qu'ils sont nombreux et variés, mais dans certains des discours transhumanistes les plus exagérés, effectivement, on imagine un transport de l'être réduit à sa composante de software, quoi. En gros, finalement, le sujet serait réduit à une espèce de programme qu'on pourrait du coup déplacer sur un support informatique, lui, qui serait pérenne avec des sauvegardes, etc. Bon, c'est une vision qui est, à mon avis, largement fautive, parce qu'elle ignore que notre être n'est pas uniquement un programme, n'est pas une effectuation des données. Il est aussi, il est constitué par ces données aussi, par le fait que nous nous sommes rencontrés, par le fait que nous créons à travers ces relations quelque chose de notre identité. Et c'est ce que j'appelle le corps relationnel.
Vous dites, le transhumanisme déteste la chair. Enfin, c'est pas de vous, vous reprenez ça d'un autre auteur. De Teilhard de Chardin, d'ailleurs, non ?
Non, c'est un article de La Croix, d'un prêtre qui a fait une tribune dans La Croix.
Oui, pardon. Le transhumanisme déteste la chair. Oui. Mathieu Villeminot.
Alors, la question de la chair, alors c'est là que c'est intéressant. Saint Augustin distingue le corps et la chair. Et je pense que nous n'avons pas assez distingué. On les a rendus pratiquement synonymes, interchangeables. D'ailleurs, dans le credo, on dit, selon la version, croit en la résurrection des corps ou la résurrection de la chair. Bref, ça a l'air d'être une chose comme une autre qui vaut... Or, il y a une différence. Et il y a une différence qui se voit justement dans le discours sur les anges qui sont réputés être doués, pour Augustin, être doués de corps, alors qu'ils n'ont pas de chair.
Corporel, mais pas charnel.
C'est ça, exactement. Et donc, on retrouve dans ce schéma-là quelque chose comme ce qui a été retrouvé, encore une fois, par la philosophie moderne, cette distinction entre le corps-objet et le corps objectif et le corps subjectif, c'est-à-dire le corps relationnel et le corps biologique. Voilà. Et c'est très intéressant parce que, en quelque sorte, la pensée chrétienne a anticipé largement la disjonction un peu maladive que nous vivons entre nos corps. C'était facile quand tout passait par le corps biologique. Et donc, du coup, on chargeait le corps biologique d'une énorme importance, oubliant un peu que le corps biologique était aussi porteur d'un corps relationnel. Et finalement, c'est ce corps relationnel qui nous identifie comme sujet, me semble-t-il.
Alors pourquoi vous faites tout ce détour sur le corps ? Parce que on peut se dire que ce type de réflexion peut justement être, une manière de presque pas d'humaniser les machines, mais enfin de leur donner justement une place encore plus importante, parce que il peut y avoir quelque chose de relationnel avec une machine, sans que pour c'est autant ça. Cette machine ait un corps.
Tout
chair.
À fait. Oui, on peut tout à fait imaginer un système relativement complexe ou peu complexe, mais enfin on peut donc qu'il soit pas de nature biologique et pour autant qu'il y aurait une dimension relationnelle. C'est déjà le cas avec les animaux, enfin ils ont une nature biologique, mais je veux dire, ça peut être le cas aussi, pourquoi pas, avec des machines. Et c'est pourquoi j'introduis cette distinction, parce qu'à mon avis, elle est éclairante sur le fait qu'il y a une possibilité métaphysique d'attribuer aux machines autre chose que le statut d'un objet. Ça peut, pourquoi pas, considérer effectivement qu'elles peuvent être le lieu d'un sujet. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça pourrait.
D'accord, mais alors qu'est-ce qui permettrait de faire le saut ? Parce que tout à l'heure, on parlait d'intelligence et conscience.
Oui.
Là, en fait, le corps existentiel, à partir du moment où il y aurait une relation possible.
Il y aurait une relation possible, c'est-à-dire à partir du moment où effectivement le sujet, alors bon, c'est un peu évidemment audacieux de parler de sujet pour une machine, mais enfin à partir du moment où la dite machine a effectivement ou entretient des relations avec d'autres entités, avec le monde qui l'entoure, eh bien, elle se constitue. Un corps relationnel, ce qui n'est pas possible uniquement si on a une vision très très réductionniste comme certains discours transhumanistes sur la vision d'un sujet qui est uniquement, encore une fois, une forme de une sorte de programme qui traite des données mais qui n'a pratiquement besoin de personne, finalement, qui intègre simplement bêtement des données sans être véritablement en relation.
Est-ce que vous pourriez prendre un exemple ? C'est-à-dire, ça serait quoi demain ? Ça serait un robot qui s'occuperait justement d'une personne âgée. Enfin, je parle des choses un peu dont on entend parler et puis qui parfois font peur. Et qui aurait une forme d'interaction en fait réelle avec la personne.
Oui, l'interaction avec les personnes, c'est l'interaction qui nous crée, on le voit nous-mêmes, hein, c'est notre interaction avec ce qui nous entoure, qui nous façonne, qui dise notre identité. Et ceci se retrouve dès la nature du Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire est un Dieu relationnel, puisqu'il y a des relations déjà entre les personnes. Et c'est parce qu'il est un Dieu relationnel que le monde qu'il a créé est un monde relationnel. Ce fameux « tout est lié, tout est connexe dans la création ». Eh bien, ce même principe vaut pour l'ensemble de la création, et donc pourquoi pas pour les objets et les objets de la technique.
Alors, une fois qu'on a fait ces deux parcours quant à l'intelligence et au corps, et qu'on voit que les machines ne sont pas forcément à classer ou à écarter aussi rapidement pour un sujet comme pour l'autre, peut-être faut-il aussi expliquer, avant qu'on fasse une deuxième pause et puis qu'on parle du grand mouvement de l'histoire du salut, puisque c'est le titre de votre livre, Jésus viendra-t-il aussi sauver les machines ? On découvrira quelle est la place des machines dans le fond, dans le plan de Dieu et leur avenir, hein, même au regard de la vie éternelle. vous n'êtes pas non plus, vous l'avez dit au début, un béat de la technologie. C'est-à-dire que si vous portez à notre connaissance toutes ces interrogations, pour autant, vous n'avez pas d'illusion sur le regard profondément éthique, enfin, sur l'urgence du regard éthique qu'il faut qu'on ait sur le monde de l'intelligence artificielle et des machines.
Tout à fait. Je suis même d'ailleurs un peu inquiet de voir à quelle vitesse, à quelle précipitation, en France comme ailleurs, hein, c'est pas uniquement en Californie, hein, c'est aussi en France, à quelle précipitation on introduit des machines à tout niveau, des machines pas du tout au point, mais ça fait moderne, ça fait chic. Alors on met des machines, on met des agents, des agents conversationnels pour remplacer des opérateurs humains pour des réclamations, des choses comme ça. Alors une espèce de robots qui comprennent rien aux explications, etc. On est absolument conscient du fait qu'ils ne sont pas au point, ils sont pas capables de comprendre vraiment bien les plaintes ou les observations des clients, mais on le fait parce que un, ça fait économiser des sous, deux, ça fait moderne. Et puis, trois, on a l'impression de suivre une espèce d'injonction de l'histoire selon laquelle s'il faut évoluer, il faut aller vers des machines, pas tout, c'est complètement ridicule. La question, ce que nous disent les textes de la Genèse, c'est que la question de l'intelligence, et je reviens là-dessus un court instant, la question de l'intelligence est une question qui est toujours précédée d'une décision éthique. Et donc il faut continuer de faire précéder la décision éthique de l'usage de l'intelligence, et non l'inverse.
Jésus viendra-t-il aussi sauver les machines ? C'est le titre de votre livre, paru aux éditions MAM. On fait une pause musicale et on vous retrouve pour parler de vie éternelle. Allez, je vous le dis en rigolant, aurons-nous des tablettes dans le royaume de Dieu, quelque part ?
Présence dans la Haute-Ariège 92.7.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Regard chrétien sur l'intelligence artificielle, c'est le titre, pour rappel, donc, de l'émission Vivante Église de ce matin avec Jean-Marc Mosqueta, docteur en sciences et docteur en théologie, auteur d'un ouvrage qui vient poser des questions sur ce sujet, puisque son sous-titre est le même que le titre de l'émission. Regard chrétien sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Et c'est un ouvrage paru aux éditions MAM, pour rappel. Jean-Marc Mosqueta, en fait, votre livre, et vous le dites, je crois, dès le début, c'est une considération, on va dire, de toutes ces réalités au regard de la vie éternelle. Vous avez aussi un passage au début de votre livre, vous dites que dans le fond, les machines, on pourrait venir les présenter à la crèche comme on vient offrir toutes les réalités du monde.
Oui.
Donc c'est à la fois, enfin tout est à envisager au regard de cette perspective.
C'est le pape Pie XII qui a, alors c'est pur et curieux, on l'imagine pas forcément dans cette, mais en 1953, dans un message Urbi et Orbi, pape Pie XII dit, eh bien, aux côtés de l'or, de l'encens et de la myrrhe, on pourrait imaginer aussi les réalisations modernes de la technologie, machines et nombres, dit-il, laboratoires et découvertes. Alors, je trouve ça extraordinaire de placer dans ce geste d'offrande au pied du Sauveur les objets de la technologie. Alors pour effectivement pour un scientifique, un chercheur, c'est très suggestif et c'est très inspirant parce qu'on se dit finalement voilà c'est ça que on nous demande, c'est de mettre non pas la technologie en idole mais au contraire en offrande, c'est-à-dire au pied du Seigneur et de dire voilà qu'est-ce que avec toutes ces machines et ces nombres, j'aime bien le terme de machine et nombre parce que les nombres sont des concepts immatériels, donc c'est y compris les théories scientifiques, y compris les nombres premiers, y compris le théorème de Pythagore, etc. Et c'est toutes ces choses finalement qui ont émergé de la pensée humaine, de l'intelligence humaine, qui sont à mettre au service finalement du plan de salut de Dieu. Voilà. Donc c'est une très belle prière, je trouve.
Alors votre citation au début de votre ouvrage, c'est donc un extrait de l'épître aux Colossiens, « Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose trouve son accomplissement total. » Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose trouve son accomplissement total. Vous arrêtez sur chose, et en l'occurrence, donc à la fin de cet ouvrage, sur l'accomplissement total, puisque vous nous aidez à regarder tout ce que l'on a dit, donc les machines, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Après avoir fait un détour par la question de l'intelligence et du corps, sur leur perspective au regard de la vie éternelle. Alors là, je me suis dit quand même, Jean-Marc Moschetta, pourquoi êtes-vous allé jusque-là ?
Et c'est pas Jean-Marc Moschetta qui va jusque-là, c'est l'hymne aux Colossiens dans les Écritures, Saint Paul, etc. Bon, mais je pense que c'est pas assez regardé comme effectivement l'espérance dans la résurrection, le plan de salut de Dieu manifesté au matin de Pâques n'est pas assez regardé comme une espérance cosmique, une espérance pour tout ce qui a été créé. Et ta panta, toute chose dans le texte grec, ne dit pas toutes les âmes des fidèles qui sont partis avec tous les sacrements voulus, etc. C'est toute chose. Toute chose trouve dans le Christ son accomplissement total. Alors, c'est une idée qui a été reprise plus tard par Teilhard de Chardin. Et puis, on retrouve ça chez aussi plutôt les chrétiens orientaux, orthodoxes, cappadociens, les pères de l'Église cappadociens, etc. Donc, c'est plutôt une vision assez orientale de réconciliation cosmique, hein, qu'on célèbre d'ailleurs dans la liturgie romaine au moment du Christ roi, seigneur de l'univers. On ne dit pas autre chose. Donc, dans cette récapitulation de toutes choses, il y a aussi les machines. Il n'y a pas que les animaux, les choses, les trucs, il y a tout. Il y a tout. Les idées, les machines, les nombres.
Donc à vous lire, tout le monde créé donc, serait pris, pour reprendre une expression, je ne sais pas si elle est de Teilhard de Chardin, dans un mouvement d'eucharistisation du cosmos.
Du cosmos,
oui. Expliquer cette pensée.
Oui, il présente l'idée de l'Eucharistie comme... il présente l'idée traditionnelle de l'Eucharistie, hein, il explique ça par exemple dans la messe sur le monde, comme l'idée d'une offrande de toute la création dans ses efforts, dans ses gémissements. Ce que dit l'Épître aux Romains dans la création en travail d'enfantement, et dans ses peines et ses progrès aussi. Et tout cela est présenté au Seigneur pour être transsubstantié, dit-il. Alors ça, c'est Teilhard de Chardin, il adore les nouveaux mots, enfin les néologismes. Donc, et moi, ça m'a beaucoup éclairé dans ma foi, hein, de penser quand on participe à la messe, à l'Eucharistie, de penser que les espèces du pain et du vin sont en réalité extensibles à l'ensemble du créé. Ces éléments matériels, qui sont en fait des éléments aussi artificiels. Le vin ne tombe pas comme ça dans la nature, ne coule pas tout fait dans la nature. C'est un produit de synthèse, c'est un produit de la technologie. Il en est de même pour le pain. Ça vient d'un certain processus artisanal qui produit ce qu'il produit, le pain et le vin. Donc il s'agit aussi d'honorer ce phénomène technologique que représentent les dons de Dieu, à la fois dons de la nature et dons de l'art, de l'artisan, et donc de la technologie d'une certaine manière. Le principe, si vous voulez, de cette récapitulation, c'est Jürgen Moltmann, je trouve qu'il l'a exposé de la manière la plus claire possible.
Qui était-ce, juste ?
Alors, c'est un théologien luthérien extrêmement important, qui a vraiment beaucoup rénové, donc à la fin du XXe siècle, et qui a beaucoup travaillé sur justement la question de la croix, de la résurrection, et qui a, je dirais, en quelque sorte un peu dynamité cette... Il a beaucoup travaillé à la fin de son œuvre sur la question de l'écologie et de la création. Et il dit ceci: « Dieu ne serait pas le créateur de toute chose s'il ne voulait pas la rédemption de toute chose. » Je trouve ce principe extrêmement éclairant. Dieu ne serait pas le créateur de toute chose, parce qu'on dit volontiers « il a créé toute chose au ciel et sur la terre, nanana ». Mais en fait, on a l'impression que le salut ne concerne qu'une petite fraction de la création, une poussière dans le cosmos, et tout le reste irait mourir dans une vaste déchetterie cosmique où s'empileraient les espèces d'animaux disparus qui n'ont pas part au salut, qui où s'empileraient les minéraux, les végétaux et les objets de la technique. Voilà. Et donc on imagine, non. C'est pas du tout ça. Toute chose a son avenir dans le Christ. Toute chose. Et ça, c'est moi je trouve c'est quand même une affirmation vertigineuse.
Alors j'ai souvenir dans Laudato Si d'un passage où le pape François disait la chose suivante. Je ne sais pas si c'est avec vous qu'on l'avait vu, parce que vous aviez participé à une série d'émissions qu'on avait fait sur ce sujet, que le monde créé, le monde végétal et animal, donc entre autres, existent pour eux-mêmes et qu'ils sont pris en fait dans le grand mouvement de l'histoire, mais on va dire indépendamment de nous. Cette aventure cosmique dans lequel le Christ récapitule tout. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer aussi pour les machines.
Et pourquoi pas. D'ailleurs,
parce que
la
machine, quand même, à la différence, on va dire, du petit oiseau ou du brin d'herbe ou du bel arbre, elle existe d'elle-même en dehors de nous.
De même que les petits, oui, je comprends pas, par rapport aux petits oiseaux, c'est pareil, non, existent aussi en dehors de nous.
C'est-à-dire que si les petits oiseaux ou les beaux arbres en fait existent en dehors de nous et sont pris dans ce moment de l'histoire, pour autant la machine est toujours quelque part une réalisation de l'homme. Donc,
c'est une réalisation de l'homme, mais c'est une créature de Dieu.
La machine, c'est une créature de Dieu.
Bien sûr, tout est créé par Dieu, y compris la messe en si, y compris, encore une fois, le théorème de Pythagore, y compris les cantates, y compris les opéras, y compris les romans, etc., etc. Tout est créature de Dieu. C'est une affirmation majeure du credo qui consiste à dire tout est créé par Dieu. Et pas seulement les objets naturels. Tout est créé par Dieu. Toute réalité, tout existant, tout être est créé par, trouve sa source en Dieu. Et effectivement, vous citez Laudato aussi, le pape dit « tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous, le sol, l'eau, les montagnes, vous voyez, qui ne prend pas forcément des êtres vivants, sensibles, etc. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. » Et il dit à la fin, au paragraphe 233, c'est très intéressant ce passage, « les portes qui grincent, le pincement des cordes, le sifflement de la flûte, ce sont des objets artificiels, tout ça. Et alors, il y a aussi le chant des oiseaux, etc. Mais, vous voyez, il a pris des choses de la nature, le chant des oiseaux, mais aussi le pincement des cordes, les objets de l'artisan, les objets de la technique.
Alors, Jean-Marc Mosqueta, si vous nous aidez donc à regarder l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies dans cette perspective, on imagine que ce n'est pas forcément, comme je l'ai dit en souriant, pour se demander s'il y aura des tablettes dans le royaume de Dieu. Au final, c'est pourquoi alors ?
Eh bien si, pour s'interroger, pour moi ça a été l'occasion d'une interrogation sur le salut. Je pense qu'il y a un problème avec... Ça m'a permis en fait de clarifier, semble-t-il, une chose, c'est que signifie le salut pour les chrétiens. On est en face d'une distinction que je caricaturerais d'une part entre une théologie de l'élection ou de la restauration, dans laquelle le salut serait une sorte d'aiguillage ou de douane. On viendrait se présenter là-haut devant une sorte de procès en comparution immédiate après la mort, vers lequel, à l'issue duquel, on serait dirigé soit en first, ou peut-être seulement en business, ou seulement dans une classe éco, ou peut-être dans un autre purgatoire, en soute, je ne sais où. Voilà. Et ça s'oppose à cela la vision paulinienne du salut qui est dite dans, par exemple dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, qui est un magnifique exposé sur la résurrection, et qui dit que le salut, c'est pas ça, c'est pas un aiguillage, c'est une transformation. C'est une transformation. Le salut est une transformation. C'est une théologie de la transfiguration. Et donc, je pense que cette idée, cette question-là, c'est comme la question du sexe des gens, elle n'est pas intéressante en elle-même. Elle est intéressante en cela qu'elle nous renvoie quelque chose sur notre condition humaine, sur notre anthropologie, sur le sens de notre vie, etc. Alors, il en est de même, là.
Alors, si ça nous fait porter un autre regard sur le salut, est-ce que ça nous fait porter un autre regard sur la vie aussi ?
Aussi, certainement, parce que dès lors que nous ressentons que tout est caresse de Dieu, tout est habité par la présence aimante de Dieu, eh bien, toutes les objets peuvent être mis, encore une fois, au pied de Jésus dans la crèche, d'une certaine manière, et non pas considérés comme simplement... des sous-produits sans valeur. Or, justement, Laudato Si nous a ouvert les yeux sur le fait que tout a de la valeur, mystérieusement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'agenouiller, resacraliser la nature et encore moins les objets de la technique. Il faut simplement les contempler avec, si possible, les yeux de Dieu, les yeux d'un Père aimant qui veut que chaque chose qu'il a créée prenne sens dans son désir de transfiguration de toute chose dans le Christ.
Eh ben merci Jean-Marc Moschetta de nous avoir emmené avec vous dans cette réflexion. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Jésus viendra-t-il aussi sauver les machines, paru aux éditions MAM. On peut dire aussi que demain vous donnez une conférence à l'Académie des sciences, inscriptions et belles lettres, qui est donc une académie toulousaine, parfois plus connue comme l'Académie des Jeux Floraux, ça en fait partie si j'ai bien compris. C'est donc demain le 4 mai pour retrouver l'heure et les modalités d'inscription, puisque ça sera en distanciel, c'est ça hein. Eh bien, il suffit de taper sur internet Académie des Sciences, inscriptions et belles lettres, en rajoutant peut-être Toulouse, 17h. Merci beaucoup.
Merci
à la technique,
à vous.
Christophe Aubry, vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet, ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.